1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio d'Espoir FM Monseigneur Hubert Herbreteau. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Vous êtes évêque d'Agen et vous avez gentiment accepté de relever un petit peu le défi de nous parler de Martin Luther, le réformateur, pour ce 500e anniversaire de son geste inaugural. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs ?
Voilà, donc je suis l'évêque du diocèse d'Agen depuis maintenant 2005, donc voilà, ça fait déjà 12 ans. Et voilà, et donc je suis originaire de Vendée aussi, où j'ai bien connu la communauté protestante.
Oui, parce qu'en Vendée, évidemment, c'est un pays de tradition catholique.
Hein, oui, mais il y a aussi.
Mais il y a aussi une partie, le bocage vendéen, qui a une forte implantation protestante.
Et puis même jusqu'au sud de la Vendée.
Oui. Voilà. Et comment, dans votre parcours théologique, avez-vous connu ou entendu parler de Martin Luther ?
Alors, ma connaissance de Luther, disons, elle commence surtout au début des années 80. Je faisais des études à l'Institut catholique de Paris, en vue d'être responsable de la catéchèse. Et voilà, donc j'ai découvert que Martin Luther avait lancé le genre catéchisme, le livre, parce qu'on est au début c'est la découverte de l'imprimerie, et il a eu cette idée géniale de diffuser très largement des choses très basiques de la foi, à savoir le credo, le Notre Père, les commandements de Dieu. Et parce qu'il avait découvert aussi que les campagnes étaient complètement ignorantes des choses de la foi, quoi. Et donc, il y avait un côté évangélisateur.
Il y avait un souci d'instruction parce que la plupart des gens de son temps étaient illettrés.
Illettrés, voilà. Et donc, c'est mon premier contact avec Martin Luther, c'est dans mes études catéchétiques.
Vous avez été responsable de catéchèse ?
Voilà, dans mon diocèse, responsable de... Alors en Vendée, hein, responsable de la catéchèse des enfants et des adolescents. Et puis ensuite, pendant 7 ans, je suis allé à Paris, où j'étais responsable au niveau national de la catéchèse des adolescents. Et à cette occasion-là, d'ailleurs, j'ai souvent rencontré des pasteurs protestants, en particulier tous ceux qui faisaient le raconté biblique.
Voilà. Est-ce que c'était plus facile au temps de Luther qu'aujourd'hui d'enseigner la Bible et d'essayer d'être témoin de Jésus-Christ auprès des enfants
et des
adolescents ?
Est-ce que c'était plus facile ? Je crois pas, non, parce que à chaque période de l'histoire, les chrétiens oublient quelquefois l'Évangile, et puis même n'ont pas connaissance du tout de l'Évangile, donc il faut toujours être missionnaire, évangélisateur. Hein, avoir ce souci, en tout cas, d'aller aux périphéries, comme dit le pape François aujourd'hui. Et je crois que Martin Luther a eu cette volonté d'aller aux périphéries.
De rejoindre ceux n'étaient pas touchés par le message,
De l'Évangile.
Donc vous avez connu Martin Luther par le biais de vos préoccupations catéchétiques, mais qu'est-ce que vous retenez de son œuvre, de sa pensée pour votre propre ministère, et puis qu'est-ce qu'il a apporté à votre compréhension de l'Évangile ?
Voilà. Ça, c'est sûr que c'est la première chose que je retiens, c'est le rapport à l'Écriture. En lisant un petit peu la vie de Martin Luther, je me suis aperçu qu'après avoir été docteur en théologie, il a enseigné beaucoup l'Écriture, en particulier les psaumes, l'Épître aux Romains, l'Épître aux Galates. Et donc il a beaucoup mis l'accent sur la connaissance de l'Écriture, en disant que finalement, c'est le critère un peu pour toute autorité dans l'Église, c'est de se référer d'abord à l'Écriture. J'ai par exemple une citation ici à propos d'un commentaire de l'Épître aux Galates, c'était en 1519, il disait « La nécessité même des choses nous contraint de recourir à la très solide pierre de la divine Écriture et de ne point nous fier imprudemment à ceux, quels qu'ils soient, qui parlent, décrètent ou agissent en dehors de son autorité. » Voilà, donc c'est... Bon, ce que j'ai retenu surtout des protestants, c'est l'écriture seule. Mais justement, ce qui est intéressant de Martin Luther, c'est que l'autorité a de l'importance, mais à condition que l'autorité dans l'Église se mette à l'écoute de la parole de Dieu. Commencer par ça.
C'est quelque chose que le pape François a lui-même, je dirais, souligné lors de son discours, lorsqu'il a été reçu le 31 octobre 2016 à Lund pour le lancement de l'année Luther. Hein, il disait effectivement, avec gratitude, nous reconnaissons que la réforme, hein, donc il élargissait un peu le propos, hein, a contribué à mettre davantage au centre la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Oui. Mais bien entendu, quand vous avez découvert cet aspect-là fondamental chez Luther, vous étiez totalement conscient que ça avait une pointe polémique, puisque c'était la contestation du magistère et l'autorité que l'institution ecclésiale prétendait avoir pour imposer une interprétation particulière des Écritures.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que chez les catholiques, il y a l'Écriture, mais il y a aussi toute la tradition de l'Église, la lecture que les pères de l'Église ont pu faire, et donc ça a de l'importance pour nous, ça c'est vrai. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que depuis le Concile Vatican II, et depuis les rencontres écuméniques avec les protestants et les orthodoxes, eh bien, dans l'Église catholique, on accorde beaucoup plus d'importance à l'écriture. Alors, on invite vraiment les chrétiens, aujourd'hui les catholiques, à avoir le goût de l'écriture, une certaine avidité même pour les textes de l'écriture.
Est-ce que dans votre découverte de Luther, il y a eu des aspects auxquels vous ne pourriez pas, vous ne pouvez toujours pas adhérer ?
Alors, évidemment, on pense un peu, surtout aux dernières années où il y a eu quelques dérives. Alors, ce que j'aime pas trop chez Luther, c'est son côté angoissé. C'est-à-dire, on rappelle souvent l'épisode de l'orage.
Hein. Ça, c'était au tout début de son parcours spirituel. Oui.
Mais ça marquait bien, ça expliquait bien sa mentalité et puis sa personnalité surtout. Et donc, c'est un angoissé.
Hein. Mais c'était le problème de cette angoisse par rapport au jugement de Dieu, c'était le problème de son époque.
De son époque, tout c'était, à fait. C'était une... c'était pas, ça ne faut pas séparer du contexte, bien sûr.
Avec justement je dirais, cette marchandisation de l'angoisse.
Et puis la peur de Dieu, quoi.
Et cette exploitation de la peur de Dieu par l'Église, par l'institution ecclésiale à l'époque. Oui. Qui a même servi à financer les besoins de l'Église et avec ce fameux commerce des indulgences que Luther a dénoncé.
C'est vrai que ça a été très étudié, par exemple, par un historien catholique, là, Jean Delumeau, sur la peur de Dieu, quoi, et cette obsession de l'enfer. Alors, je pense que ça a été très libérateur avec la réforme, quand on a dit, mais d'abord, c'est pas tellement par les œuvres qu'on va vers Dieu. Ne soyons pas pélagiens, c'est-à-dire volontaristes.
En pensant que nous pouvons collaborer à notre salut. Voilà. Ou que notre salut dépend de nous.
De nous, et puis sauver mon âme, quoi. C'était pas ça d'abord, mais c'est d'abord accueillir le don de Dieu et la grâce de Dieu. Alors moi, je trouve ça, c'est très positif, et ça nous a fait beaucoup de bien, dans l'Église catholique, en tout cas.
François, le pape François, qui faisait sans doute écho à l'accord entre catholiques et luthériens sur la justification en 99, écrivait « La doctrine de la justification exprime l'essence de l'existence humaine face à Dieu. Dieu est celui qui nous justifie gratuitement. »
Voilà, c'est ça. Oui. Et d'ailleurs, ça rejoint très bien des courants dans le catholicisme. Je pense, par exemple, tout ce que saint Ignace de Loyola a pu dire, un petit peu après, sur ce qui compte pour les chrétiens, c'est d'abord de louer et servir Dieu, quoi. C'est ça qui compte pour les croyants. Et puis d'accueillir, c'est toujours pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, arrêtons d'être volontariste ou de vouloir aller vers Dieu à la force des poignets, mais laissons-nous faire, laissons-nous d'abord accueillons le don de Dieu. Quoi.
Dieu est venu vers nous, le salut est derrière nous, et donc ça nous libère pour la louange et la recherche de sa gloire, dans une perspective de gratuité. Oui, oui. Mais alors, qu'est-ce qui nous sépare encore, alors ?
Qu'est-ce qui nous sépare ?
Protestants et catholiques.
Bon, je pense quand même que du côté de l'institution, alors ça c'est les dernières années surtout de Luther, et ça me déplaît un peu, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il avait des comptes à régler avec l'autorité, hein, mais ça vient un peu de son itinéraire. Et voilà, c'est peut-être ce qui nous sépare, c'est justement le côté de l'ecclésiologie, peut-être.
Ah, ça, certainement, oui.
Ouais, voilà. Oui. Et donc, toute la perspective sacramentelle aussi, même si on a des sacrements, le baptême, l'Eucharistie, on est d'accord un peu sur la manière de les célébrer et d'en vivre. Mais voilà, je pense que l'aspect donc ecclésiologique est sans doute à reprendre. Alors, justement, dans l'œcuménisme, il ne faut pas aller trop vite en disant finalement tous pareils, on s'entend bien, c'est formidable. On a encore du chemin à faire les uns vers les autres, quoi. Et les rencontres sont très importantes, que ce soit au plan local, à Agen par exemple, mais aussi de manière plus générale, quoi. Les rencontres pour mieux nous comprendre, mieux comprendre notre histoire. Mais on est toujours un peu dans la souffrance de ce qui s'est passé au temps de la Réforme. Ça, c'est vrai.
Ça reste une souffrance, ça reste une déchirure.
Ouais, oui.
Je me souviens, j'étais jeune pasteur, et dans mon premier poste en Normandie, un catholique engagé dans l'église où j'étais, où j'étais à Luneray, me dit « Mais pourquoi au XVIe siècle, vous n'avez pas tapé plus fort sur la table ?»
Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est un regret que vous partagez, que finalement, au XVIe siècle, l'église catholique n'ait pas écouté vraiment et reçu l'interpellation de Luther?
Oui, moi je pense qu'on peut dire ça. Hein. À d'autres époques, je pense par exemple au XIIIe siècle, on a su écouter par exemple un François d'Assise qui disait...
Vraiment, l'Église, comment dire, il a été écouté par l'institution ecclésiale?
Ah oui, il a été écouté parce que bon, tout le message de pauvreté de François d'Assise, ça a eu beaucoup d'importance. Hein. Alors après, ben, voilà, on s'installe dans la routine, et puis on se sent fort. Bon, il y a toujours un sentiment de puissance avec les institutions. Et ben, au temps de Luther, dans les années 1515, voilà.
C'est 1520. Le lien entre l'Église et le pouvoir qui a finalement provoqué un éclatement.
Oui, moi je pense que quelquefois, on est trop lié au monde, quoi. Hein. Et l'Église, elle a un rôle prophétique. C'est-à-dire, alors on peut être très mondain, c'est-à-dire on prend les mêmes habitudes que le monde. Finalement, on oublie l'Évangile, quoi. Donc le côté contestataire, protestant, moi je trouve que c'est important. Hein. Voilà. Alors après, bon, ben, c'est sûr que la contre-réforme avec le Concile de Trente a apporté d'autres éclairages, hein, pour nous. Il y a eu aussi le catéchisme du Concile de Trente, il y a toute la redécouverte de l'Eucharistie aussi. Mais il y avait beaucoup de choses qui avaient été oubliées, quoi. Et puis, c'est vrai, c'est cette histoire d'argent, c'est très déplaisant, quoi. Hein.
Ouais.
Voilà.
Il me reste à vous remercier vraiment chaleureusement de votre intervention. Je crois que parmi toutes les émissions que les radios protestantes de France vont produire et sont en train de produire en cette année Luther, eh bien, il fallait une voix d'un frère catholique et vous l'avez apporté avec chaleur, bienveillance et perspicacité. Merci beaucoup, Monseigneur Herbreteau, et à bientôt peut-être.
À bientôt.
— 1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.